Bouillon de lecture. Bouillon de lecture, votre émission mensuelle de découverte d'un livre à travers la lecture d'extraits choisis par Catherine ou Hervé. Il s'agit de vous mettre dans l'ambiance du livre, de vous le faire goûter, de vous mettre l'eau à la bouche et de vous donner envie de le lire à votre tour pendant que vous êtes confortablement installé dans votre canapé, dans la douce torpeur d'un début de dimanche après-midi. L'émission du mois dernier, celle qui vous a permis de découvrir Murène de Valentine Gobbi, avait déjà été perturbée. Elle devait être enregistrée en public, rappelez-vous. C'était dans une époque lointaine, celle d'avant le confinement. Cette émission, nous vous l'avions expliqué, s'était faite dans les conditions d'une émission en public, mais sans public, car le coronavirus se faisait déjà pressant. C'était avant le 16 mars. Depuis, le coronavirus a fait un peu plus de chemin, et c'est en pleine période de confinement que nous enregistrons l'émission de ce mois-ci. En fait, je vous parle seul face à mon ordinateur, le studio de la radio est fermé. Catherine a enregistré sa lecture à la maison et m'a fait parvenir l'enregistrement. Cette émission n'aura donc pas la saveur habituelle, mais nous espérons qu'elle vous fera aimer malgré tout Marie Ginclark. Catherine, c'est à toi.
Bonjour. Une fois n'est pas coutume, je vais aborder aujourd'hui le roman policier ou roman à suspense. En effet, je voulais saluer à ma façon le départ de la reine du suspense. Marie Higgins Clark, qui est née le 24 décembre 1927 à New York et morte le 31 janvier de cette année, donc à Naples, en Floride, à l'âge de 92 ans. C'est une écrivaine américaine qui s'est spécialisée dans le roman policier et le roman de suspense. Après avoir fait différents métiers, écrit différents types d'ouvrages pour la jeunesse, pour la radio, etc., mais sans grand succès, elle écrit son premier roman à suspense, La Maison du Guet, en 1975, qui devient très vite un best-seller. En 1977, elle se fait découvrir en France avec La Nuit du Renard, auquel est décerné le Grand Prix de littérature policière. Les éditions Albin Michel inaugurent avec ce roman la collection spéciale Suspense qui compte aujourd'hui 22 de ses 26 romans. Tous ses romans rencontrent le succès. Elle a publié au long de sa carrière une cinquantaine de romans policiers écoulés à plus de 100 millions d'exemplaires. Alors évidemment, lire des extraits d'un polar ou d'un roman où le suspense est primordial, c'est bien délicat. Aussi, j'ai choisi une de ses nouvelles tirée du recueil « La nuit s'éveille », 10 nouvelles de suspense inédites, publiée évidemment par Albin Michel en 2000. La nouvelle que j'ai choisie est celle qui a donné son nom au recueil, « La nuit s'éveille ». Un huis clos au fond des bois entre une jeune femme et son amant d'une jalousie pathologique. Deux minutes après, je n'étais pas certaine que ce fût vraiment arrivé. Je voyais par terre les éclats du sous-verre brisé, je sentais la douleur lancinante de mon crâne à l'endroit où il avait sèchement heurté le mur, mais je voyais et je sentais également Geoffrey. Ses traits déformés par la stupeur, sa main tremblante effleurant mon visage. « Mon Dieu, Anna, regarde-nous. Tu vois ce que tu as fait? C'est ce que tu voulais ?» Je repoussai sa main en m'efforçant de reprendre mes esprits. Mais qu'avais-je fait? Je m'étais avancée dans l'appartement, plongée dans l'obscurité. Mon appartement? J'avais entendu la voix de Geoffrey. « Où es-tu ?» J'avais tendu la main pour éclairer, mais quelque chose m'en avait empêché. Des mains, vigoureuses, furieuses, m'avaient-elles agrippée, poussée? J'étais tombée, le dos contre le mur, c'est tout ce que je savais. J'étais tombée en arrière, contre le mur, et la pièce s'était éclairée, et Geoffrey était là. Geoffrey, dans mon appartement. Une semaine après que je lui eus dit que j'avais besoin de rester seule pendant quelque temps. « Pardonne-moi, » dit Geoffrey. « Je t'ai fait peur, n'est-ce pas? Je voulais qu'on discute, je suis entrée, mais tu m'affoles, Anna, je ne voulais pas. » Comment te sens-tu ? Je portais la main à ma tête avec une grimace. Oh, ça va pas, là, assieds-toi. Pas même une bosse. Mais tu vois ce qui peut arriver ? Je suis désolée d'être entrée ainsi et de t'avoir fait peur. Je ne suis pas moi-même ce soir. Toi non plus, tu n'es pas toi-même. Ça ne te ressemble pas de traîner de cette façon. Mais je ne traînais pas. J'étais avec Hélène et Paul au... Inutile de mêler Hélène à tout ça, Anna. Nous savons qu'Hélène n'était pas là, n'est-ce pas ? Il y avait Paul et toi. Mais Hélène fait partie du problème aussi, n'est-ce pas ? Elle n'aime pas ta sœur que nous soyons tout le temps ensemble, n'est-ce pas ? Oh, je ne sais pas pourquoi tu l'écoutes. C'est bien là qu'est le problème. Tu n'as pas besoin d'être seule. Nous avons besoin d'être seuls. Ah, tu sais bien que j'ai raison, Anna. Je sais ce que nous allons faire. Nous allons aller à la cabane. Mais si on ne résout pas les problèmes par la fuite, on partira samedi pour un long week-end à la cabane, loin de la ville. On sera seul. On discutera, on tirera tout cela au clair. Quand il est venu me chercher le samedi et que j'ai vu ses cheveux qu'il venait de faire couper, ses joues rasées de près, la veste que j'aimais tout particulièrement et qui le faisait paraître si large d'épaules, j'ai pensé au Harry's. C'était là que nous nous étions rencontrés, au Harry's Tap. J'ai fait porter cette veste. Tout était nouveau, tout beau au Harry's. Jeffrey m'avait rencontré, m'avait désiré et m'avait fait la cour. C'est un départ matinal, a dit Jeffrey. Il me souriait, assis au volant, de ce sourire que j'avais vu pour la première fois au Harry's. Devrais-je dire un nouveau départ ? Un nouveau départ, pour que tout redevienne comme avant, comme au Harry's. Ce week-end s'annonçait soudain sous des couleurs éclatantes. Le soleil chauffait à travers le pare-brise, les pneus de la voiture chantaient doucement sur l'asphalte et je sentis bientôt le sommeil me gagner. Je fermai les yeux. La première ornière de la piste me réveilla. « On y est presque !» me dit Jeffrey. J'aperçus un reflet d'eau entre les troncs. La voiture s'arrêta quelques mètres plus loin. « Ça te plaît ?» demande Jeffrey. Je ne répondis pas tout de suite, je n'étais pas certaine que ça me plaisait. En regardant droit devant moi, je ne voyais plus cette forêt sinistre, comme si elle avait disparu sur un coup de baguette magique, mais une grande trouée ensoleillée et la surface brillante de l'étang. Une étroite jetée, faite de planches grossièrement ajustées, courait entre la zone ensoleillée et la cabane, mais je vis en me retournant pour regarder la cabane que ni le soleil ni l'eau ne pouvaient l'atteindre. Elle était nichée dans un renfoncement si obscur qu'il semblait y faire nuit et les bardeaux décolorés que formaient au vent plongeaient ce qui paraissait être la porte et les fenêtres dans une pénombre encore plus épaisse. Je sentis que Jeffrey m'observait toujours. « Alors, Anna ?»« Je... Oui, c'est... »« L'étang est très beau. » Il sourit. Attends de voir l'intérieur. Il me tira par la main pour me faire franchir les trois marches de pierre menant à la cabane. Quand je mis le pied sur le porche, le plancher s'enfonça un peu sous moi. Jeffrey sortit une clé rouillée de la poche de sa veste, la fit tourner dans la serrure et la porte s'ouvrit en gémissant. Il resta en arrière et j'entrai. Ça sentait le moisi. La pièce dans laquelle nous nous trouvions semblait en constituer l'essentiel. Un coin living à gauche avec un poêle à bois, une banquette en fer en guise de canapé, une caisse servant de table basse. Il y avait aussi une table en bois, deux chaises aux barreaux cassés, une petite glacière, un évier complété par une pompe rouillée, une armoire métallique et une collection de cannes à pêche accrochées aux chevrons. Jeffrey me fit entrer dans la chambre, le lit semblait l'occuper tout entière. Il ne restait guère plus d'une trentaine de centimètres pour circuler autour. Il n'y a pas du tout de voisins ? Non, il n'y en a plus. Comme je te l'ai dit, nous ne sommes qu'un point minuscule au centre d'une zone protégée. Il n'y avait que notre cabane et celle des Blake sur la plage avant que la zone ne soit classée réserve naturelle. La loi nous accorde un droit de jouissance à vie dans ces cabanes, mais Blake a laissé la sienne à l'abandon depuis 2 ans. J'éprouvais une envie soudaine de respirer à l'air libre. Si on allait faire un tour. Jeffrey me suivit dehors, je m'arrêtai sur la jetée pour regarder vers la gauche puis vers la droite. Le choix s'imposait. À l'est, la plage de sable blanc disparaissait sous les roseaux et la végétation du sous-bois à 30 mètres de notre jetée. Mais à l'ouest, elle s'étirait gracieusement en croissant jusqu'à l'embarcadère du voisin absent et au-delà. Nous descendîmes de la jetée pour marcher vers l'ouest. Soleil ou pas, je me surpris à chercher la main de Jeffrey. Comme nous approchions de la cabane de Blake, je sentis ses doigts se crisper. « Et qu'y a-t-il ?» Un fauteuil sous le porche. Ah, tu crois qu'il est là? Non, voilà des années qu'il ne vient plus, et il n'y a pas de voiture, mais je n'avais jamais vu ce fauteuil. Jeffrey scrutait tout de même la cabane, et je l'imitais, intrigué. Elle ressemblait beaucoup à la nôtre, en plus petite. Pour autant que ce fût possible, avec le même auvent sombre et les mêmes fenêtres minuscules, mais l'amas de feuilles et de branches sur le toit et la déchirure dans le grillage de la porte moustiquaire lui donnaient un air encore plus solitaire et abandonné. Jeffrey apparemment partageait cette impression. Il nous fit faire demi-tour. « Bien, retournons chez nous, il y a du travail. » Le soleil effleurait la cime des arbres. J'entendais les coups de hache de Jeffrey dans la forêt, quelque part derrière moi. Je m'avançais sur la jetée et m'assis les pieds ballants au ras de l'eau pour regarder le soleil disparaître. Soudain, l'un des grands poteaux de la jetée du voisin se mit à bouger. Quelque chose jaillit hors de l'eau, frétilla dans les airs, retomba dans l'eau. Puis je distinguai la canne à pêche qui dessinait un arc entre la haute silhouette sombre de l'homme sur la jetée et le poisson. J'observai fasciné la canne qui fléchissait, se redressait, et l'homme qui l'accompagnait de son balancement jusqu'au moment où le poisson creva à nouveau la surface. Il se tordit en donnant une dernière longue saccade, lança un éclair argenté et on eut soudain l'impression qu'il avait des ailes. La canne se redressa sèchement et le poisson, au terme d'une courbe gracieuse, replongea dans l'étang, libre. J'avais applaudi sans le vouloir. Le bruit, amplifié par l'écho, courut à la surface de l'eau comme une petite salve au canon. La silhouette sombre sur l'embarcadère se retourna dans ma direction. Je sentis les planches trembler et Jeffrey parla derrière moi. « Ah, il est ici, donc. » Je me retournai, surprise par cette voix sifflante. Je posai la main sur son bras. « Ouais, il est ici. Quelle importance !»« Quelle importance ? Bien sûr que ça a de l'importance, justement !» bon sang, je voulais qu'on soit seuls, tous les deux. Je me mis à rire avec un geste de ma main tremblante vers les kilomètres et les kilomètres de forêt envahis par l'obscurité. Il me semble que ce n'est pas la place qui manque. Jeffrey baissa les yeux sur moi, son sourire effaça la crispation bizarre de sa mâchoire. Il passa un bras autour de ma taille et nous repartîmes vers la cabane. Au moment de franchir le seuil, je me retournai vers le pêcheur, mais il n'était plus là. La lanterne, c'était bien utile, tout comme le poêle à bois, et le repas qui cuisait doucement dans la marmite. Et Jeffrey, le Jeffrey d'avant, le Jeffrey du Harris Tap, qui parlait, qui riait, et qui tendait la main pour prendre la mienne par-dessus la table bancale. Ah, quand nous ne sommes plus que tous les deux, loin de tout, seuls. Il n'y a plus de problème. Tu m'appartiens, Anna. Tu ne vois pas que tu m'appartiens? Je... Oui, parfois. Le bras qui m'entourait se raidit. Était-il en colère? Je ne voulais pas que Jeffrey se mette en colère. Et maintenant, à cet instant précis, il me semblait bien que ma place était ici avec lui. Le bois crépitait agréablement dans le poêle. L'éclat de la lanterne réchauffait les murs sombres. Les mains de Jeffrey réchauffaient ma peau. Et tous les doutes que j'avais pu nourrir à son sujet semblaient s'estomper comme la pénombre des bois. Je dormis tout de même mal cette nuit-là, trop attentive au bruit de la forêt, aux odeurs de la cabane et aux fantômes que je croyais apercevoir. Au lever du jour, les choses s'arrangèrent un peu et j'étais encore dans un demi-sommeil à 9 heures quand Jeffrey m'effleura la joue de ses lèvres. « Il faut que j'aille en ville à chercher de la glace. Ne bouge pas, le café est sur le feu. » Les mots ne parvinrent pas vraiment à mon esprit. Ce fut seulement en entendant vrombir le moteur de la voiture que je me dressai d'un coup complètement réveillé. « Jeffrey !» J'attrapai mon peignoir et me précipitai sur le seuil. Trop tard, à quelques secondes près, les feux arrière clignotèrent entre les arbres puis disparurent. Et le soleil était là, tel un gros ballon jaune, citron, resplendissant, suspendu au-dessus des arbres. Il chassait déjà les ombres et réchauffait l'atmosphère. Je rentrais dans la cabane pour me servir un café que je rapportais sur l'embarcadère. Je tâtais l'eau de mes orteils, elle était étonnamment tiède. Mon café bu, je retournais à l'intérieur pour enfiler un maillot de bain, puis je courus jusqu'à l'extrémité de la jetée et piquai une tête. Ah, c'était plus froid en profondeur. Je respirai un grand coup en refaisant surface et me mis à nager de mon crawl un peu raide, parallèlement au rivage. Comme je ne pratiquais plus la natation de façon sérieuse depuis un certain temps, je fus très vite fatiguée. J'étais à une trentaine de mètres de la cabane de notre voisin quand je m'arrêtai à bout de force. Je décidai de rejoindre directement le rivage pour rentrer à pied. Je me dirigeai donc vers la plage et pris pied sur le sable en frissonnant. Comme je me penchais en avant pour essaumer mes cheveux, une voix s'éleva derrière moi. « C'est un coup de couteau que vous avez reçu dans le dos ?» Mon cœur bondit dans ma poitrine, je me retournai, les mains sur les hanches, solidement campées sur ses pieds nus, l'homme ne souriait pas. Le pêcheur, ce ne pouvait être que le pêcheur. Mais la haute silhouette noire aperçue la veille à la tombée de la nuit semblait maintenant tout en or. Le soleil s'accrochait dans ses cheveux et dans les poils de son torse, de ses jambes, de ses bras. Même son short kaki prenait un reflet doré. Un coup de couteau. Il pointa le doigt vers mon dos. Cette blessure-là. Je reculai maladroitement en bafouillant. Non, c'est pas ça, c'était du verre, un cadre, un éclat de verre. Je suis tombée contre le mur et le cadre s'est cassé et m'a blessée. C'était un accident, un stupide accident. Le temps que je me rende compte qu'il souriait, il ne souriait déjà plus. J'ai eu l'impression qu'il me regardait bizarrement. Je plaisantais, inutile d'expliquer, mais si j'en ai parlé, c'est que c'est pas très joli d'aspect. Il faudrait vous en occuper. Vous pouvez pas le voir, mais ça semble infecté. Je restais stupide, le souffle court. L'homme continuait à me regarder avec cette expression bizarre, puis il tendit la main. « Peter Blake. » Je pris sa main. « Anna Templeton, je suis là-bas. » Je montrai la cabane de Jeffrey. « Oui, c'est ce que je pensais. La fille qui applaudit. Ça vous plaît donc de voir les hommes mourir de faim ?»« Je mourir de faim. » « Ce poisson, hier soir, c'était mon dîner. Hein. Je le fais pas souffrir par plaisir. » »« Mais c'est tout de même un plaisir, surtout quand ils se défendent aussi bien. » Il se tut. Il avait l'air d'attendre quelque chose, des excuses. « Désolé, dis-je, j'ai applaudi malgré moi, c'était si beau à voir. » Et il s'était débattu avec une telle énergie, c'était... Je sais, il méritait de gagner. « Vous êtes ici pour quelque temps ?»« Une semaine. » Je me tus, embarrassée. « Nous avons été surpris de vous voir en arrivant. »« Surpris ?» Enfin, je devrais dire plutôt que Jeffrey a été surpris. Il m'avait dit que vous ne veniez plus jamais. Vous connaissez Jeffrey Holtz, la cabane appartient à son père. Il ne souriait plus du tout. Mais je connais Jeff. C'est vrai que je n'étais plus venue depuis 2 ans. La dernière fois, ça n'a pas été très agréable. Aujourd'hui, en tout cas, c'est agréable. Peter Blake ne semblait pas de cet avis. Peut-être avait-il trouvé moins agréable mon irruption sur ce qu'il considérait sans doute comme son territoire. « Oh, je suis désolée, » répétai-je platement. « Je suppose que je n'aurais pas dû passer par là, mais si je n'étais pas sortie de l'eau, j'aurais échoué ici, noyée. Vous n'auriez pas trouvé ça très drôle non plus. » Quelque chose changea dans son visage. Mais qu'était-ce ? Il ne chercha pas à me répondre, parce que mon bavardage ne le méritait pas, mais quelque chose dans son regard me fit comprendre que le mieux était de me taire et de m'en aller. « Il faut que j'y aille, » dis-je. « Bonne chance pour le dîner de ce soir. Je vous promets d'applaudir si vous gagnez. » Et je le plantai là, immense, doré, silencieux dans le soleil. Jeffrey m'attendait sur la jetée. « Qu'est-ce que ça signifie ?»« C'est Peter Blake, le... »« Je sais qui il est. Je te demande ce que tu faisais. » J'avais déjà un pied sur l'embarcadère, je le reposais dans le sable. Oh, « Pas Jeffrey en colère, surtout pas. » Je m'étais trop éloignée en nageant et j'ai préféré rentrer à pied. Il est arrivé, il s'est présenté, c'est tout. Tu as sauté dans l'eau sans te demander une seconde ce qui pouvait arriver, c'est ça ? Non, je me demande pourquoi toutes les idioties que tu peux faire m'étonnent encore, Anna. Je devrais être habituée depuis le temps. N'empêche, ça t'intéressera peut-être de savoir qu'il y a un haut fond par là-bas. T'as pas pensé qu'en te fatiguant de cette façon, tu risquais une crampe ? Tu sais pas comment on a vite fait de couler. Et ne compte pas sur Peter Blake pour te secourir. Hein. Il n'a pas levé le petit doigt quand sa femme s'est noyée. Il tourna les talons et rentra dans la cabane. Je le suivis. Sa femme s'est noyée ? Ouais, il était penché au-dessus du poêle, ne se retourna pas. Il y a 2 ans, ici même. Oh, ça alors ? Bah, elle l'avait pas volé, hein. Elle s'était conduite comme une idiote. Elle avait bu quelques verres, elle a sorti le bateau, elle est partie vers l'autre rive, elle est passée par-dessus bord et elle s'est noyée. Bah, il n'a pas pu la secourir. Il n'a pas pu ou il n'a pas voulu, hein. Il a dit qu'il n'était pas là. Mais même s'il avait été là, je doute qu'il s'en serait donné la peine. C'était une coureuse. Jeffrey ! Il s'était redressé en parlant. Le regard qu'il me jeta était presque amusé. D'après sa version, il était en pleine tentative de réconciliation. Il a dit qu'ils avaient prévu de se retrouver ici pour discuter de leurs problèmes, mais qu'à son arrivée, elle était déjà morte. C'est lui qui a retrouvé le corps échoué sur la plage là-bas. Ah ! Non ! Jeffrey se retourna. Mais pour l'amour du ciel, Anna, calme-toi, je voulais te mettre en garde, c'est tout. Il t'arrivera rien si t'es prudente. Oh, c'est pas ça, j'ai dit quelque chose d'affreux à Peter Blake. Je lui ai dit que j'avais failli me noyer et échouer sur sa plage. Il m'a regardé d'un drôle d'air, mais je pouvais pas deviner. Je n'achevais pas ma phrase. Jeffrey riait aux éclats, la tête renversée en arrière. Nous ne parlâmes pratiquement pas pendant le déjeuner. J'étais obsédée par le souvenir de ma conversation avec Peter Blake. J'ai eu un court répit après le déjeuner quand Jeffrey partit creuser dans la forêt pour trouver des vers. À son retour, il prit l'une des cannes à pêche et alla chercher un vieux canot en aluminium tout cabossé sous la cabane où il était rangé. « Tu veux venir ?» Je secouai la tête. Jeffrey poussa le canot à l'eau et disparut en pagayant derrière une avancée de la berge. Je regardais par la fenêtre de la cuisine tout en faisant la vaisselle. Quand ce fut terminé, je pris une couverture dans la chambre sur une étagère, descendis jusqu'à la plage et l'étalai sur le sable tiède. Mais je ne m'y assis pas, impossible. Je n'avais que Peter Blake à l'esprit. Oh, que devait-il penser de moi ? Je rassemblai le peu de courage que j'avais et je partis le long de la plage jusqu'à la cabane. Il était sur le porche en train de réparer le porte-moustiquaire déchiré. Je ne lui laissais pas le temps de parler. Je suis venue vous présenter mes excuses pour ce qui a dû vous paraître une allusion aussi méchante que gratuite. Je vous jure que je ne savais absolument rien de ce qui s'était passé avant que Jeffrey ne m'en parle. Il y a une heure. Je n'aurais jamais dit, je ne me serais jamais permis, je ne pouvais pas me douter, j'espère que vous voudrez bien comprendre. Son sourire, cette fois, était un vrai sourire, mais sa voix me parut plus chaleureuse que je ne le méritais. Hein, je l'ai compris 2 minutes après votre départ. Il est clair que vous n'étiez pas du genre à faire des plaisanteries cruelles. Vous n'avez pas à vous excuser. Merci de prendre ça aussi gentiment et d'écouter une seconde fois mes bredouillages. Au revoir. Je tournai les talons et repartis. J'avais déjà redescendu les 3 marches pour m'élancer sur la plage quand je l'entendis dire « au revoir ». Je retournai à ma couverture et me laissai choir sur le dos épuisé, mais la conscience plus légère. Je crois que je m'assoupis, mais je ne dormis pas longtemps. En me réveillant, je me dressai sur mon séant pour regarder autour de moi. Jeffrey n'était toujours pas visible. Et pour une fois, j'en fus contente. Je regardais dans la direction de la cabane de Peter Blake. Et à la seconde où je tournais les yeux vers l'extrémité de la plage, il sortit de sa maison pour se diriger vers moi. Parvenu au bord de la couverture, il tendit la main. « Mais pour cette blessure !» Je tendis la main à mon tour et pris le tube. C'était une pommade antibiotique, comme l'a pris l'étiquette. « Merci, mais c'est pas si grave, franchement. » Je voulus lui rendre le tube, mais son regard solennel m'arrêta. Il avait les yeux verts et clairs comme l'eau de l'étang sur le sable. « Je voudrais que vous en mettiez. J'ai déjà vu des plaies comme celle-ci tourner très mal. »« D'accord. » Je posai le tube à côté de moi sur la couverture. « Je la nettoierai d'abord à l'eau chaude. » Il se mit à rire. Pas facile de trouver l'eau chaude dans ces parages. Je tournai les yeux vers l'étang pour ne pas le regarder avec insistance et vis que le canot de Jeffrey venait enfin de réapparaître. Comment fait-on juste pour tomber contre un mur ? Je sursautai décontenancé. Je vous demande pardon ? Vous m'avez dit que vous étiez tombé contre un mur. Comment avez-vous fait exactement ? Je voyais Jeffrey en face de nous, dressé sur son siège aux aguets. Je me relevai. « J'ai l'impression que le temps a fraîchi depuis ce matin. Je crois que je ferais mieux de rentrer. »« Il fera encore plus froid à l'intérieur. »« Écoutez, je sais que ceci ne me regarde pas, mais... » Il se tut. Je ne quittais pas l'étang des yeux. Jeffrey ramait vigoureusement dans notre direction. Je ramassais ma couverture et les tubes de pommade. Il faut que j'y aille. Mais merci pour ceci. Je penserai à vous le rendre avant de repartir. J'en ai pas besoin. Écoutez, reprit-il. Je me tournai vers lui, puis la moindre trace de sourire cette fois. Il me regardait fixement et semblait incapable de détourner les yeux. Et je restai immobile, prisonnière de ce regard, jusqu'au moment où le canot vint s'affaler en raclant le sable, tandis que Jeffrey bondissait sur la plage pour nous rejoindre. J'avais été stupide d'avoir aussi peur. Jeffrey tendit la main avec un sourire éclatant en s'approchant de l'autre homme. « Blake, quel plaisir de vous voir, ça faisait longtemps !» Nous n'étions pas tirés d'affaire pour autant. C'était Peter Blake cette fois et non Jeffrey dont les traits s'étaient durcis. Et on eut un instant l'impression qu'il allait ignorer la main tendue. Je crois que je fermais les yeux. « Prends-la, pour l'amour du ciel, prends cette main !» Quand je regardais à nouveau, la grande main blanche et la grande main brune s'étaient rejointes. Je respirais. Les yeux verts croisèrent brièvement les miens, puis revinrent se poser sur Jeffrey, et Peter Blake retira sa main. « Vous venez tard cette année. »« Oui, dit Jeffrey, j'ai parié qu'il ne gèlerait pas. Ça en valait la peine, vous ne trouvez pas ?» Il me sourit et je lui rendis son sourire. Il tendit le bras vers moi et je me rapprochai pour lui permettre de le passer autour de mes épaules, l'habitude. Peter Blake observait. « J'ai apporté à votre amie quelque chose à mettre sur cette blessure qu'elle a dans le dos. Je l'ai remarqué ce matin. Je crains qu'elle ne soit obligée de voir un médecin. »« Oh, je surveille ça de près, dit Jeffrey. Merci. » « Anna, tu as l'air transi. Je vais te ramener. »« Combien de temps comptez-vous rester ici, Blake ?»« Oh, quelques jours. La cabane a besoin de réparation. »« Ah, bah dans ce cas, nous nous reverrons certainement, » dit Jeffrey. « Certainement. » Je saluai Peter Blake, répondis d'un hochement de tête. Jeffrey me raccompagna à la cabane sans relâcher l'étreinte de son bras autour de mes épaules. Aujourd'hui encore, je ne m'explique pas pourquoi. Je ne sais toujours pas si ce fut à cause de la question de Peter Blake ou de la façon dont il nous avait regardés tous les deux, mais je crois que ce fut là, sur la plage, que je vis pour la première fois Jeffrey, le véritable Jeffrey, l'homme qui se cachait derrière ce sourire, derrière ses mains. En tout cas, au moment où je quittais la plage ensoleillée pour entrer dans la pénombre de la cabane, je savais que je n'étais pas tombée toute seule contre ce mur. Et que je n'appartenais pas à Jeffrey. Ma première pensée en franchissant avec lui le seuil de la cabane fut que j'allais lui parler tout de suite pour lui dire que je ne voulais plus le voir, que nous allions faire nos bagages et repartir et que je reprendrais une vie normale. Normale. Il avait fallu cette conversation idiote sur une plage loin de toute civilisation pour que je comprenne à quel point ma vie était devenue anormale. Je ne voyais plus mes amis, mes parents, je ne voyais plus personne sauf Jeffrey. Et que se passait-il dès que je tentais de rétablir un contact avec quelques-uns de ceux que j'avais aussi grossièrement laissés tomber ? Jeffrey se hâtait de me mettre hors d'atteinte. C'est aussi à ce moment que je crois que je vis à quel point j'avais peur. Et je compris soudain quelle folie ce serait d'annoncer ma décision à Jeffrey alors que nous étions seuls ici. Il valait mieux lui laisser croire que tout allait bien en attendant le retour à la civilisation. Tel était donc désormais mon objectif, retourner le plus vite possible à la ville. Au prix d'un terrible effort, je glissai ma main autour de sa taille et lui souris. « Alors, cette pêche ?» Je n'ai rien pris. Je n'espérais pas mieux. Ils ne me rendent pas la surface avant la tombée du jour. Si on essayait, ça te plairait d'apprendre à pêcher ? Tu semblais très intéressé hier par les efforts de ce pauvre Blake. J'adorerais ça. Comment répondre autrement ? Dire le contraire l'aurait persuadé que je trouvais intéressant de regarder Blake pêcher et non lui, Jeffrey. Ah, je le connaissais si bien. Mieux valait être d'accord là-dessus avec lui pendant que je me demandais comment obtenir son accord sur quelque chose qui me paraissait infiniment plus important. À propos de Peter Blake, il m'a inquiété avec cette blessure. Elle me fait terriblement souffrir, j'ai des élancements et je me suis sentie fiévreuse toute la matinée. Je crois vraiment que je devrais rentrer pour la faire examiner. Jeffrey appliqua la paume de sa main sur mon front. « Mais tu n'es pas chaude. Laisse-moi regarder. » Il me fit pivoter, souleva ma chemise. « Ce type t'a effrayé pour rien, je t'assure qu'il n'y a pas la moindre inflammation. » Il m'a conseillé de la nettoyer à l'eau chaude. Nous n'avons pas d'eau chaude ici. Vraiment, j'ai frais. Nous ferions peut-être mieux de repartir. Mais c'est idiot, regarde. J'ai gardé de la braise dans le poêle. En un rien de temps, nous aurons assez d'eau pour te soigner. J'avais donc raté mon coup. Mais Geoffrey, au moins, ne se doutait pas que mes sentiments avaient changé. Je tiendrai bien ainsi une nuit, un jour de plus, puis je rentrerai chez moi. Le seul danger, me semblait-il, était la présence de Peter Blake. Je devais me garder de l'approcher et de donner à Geoffrey une raison, même fausse, de s'inquiéter. Il ne devait pas être trop difficile d'éviter un homme qui, en toute évidence, était venu ici pour être seul et en finir avec ses propres fantômes. Notre rencontre avait été purement fortuite, médicale. Si je ne me cantonnais à mon bout de plage, il n'y avait aucune raison pour que nos chemins se croisent à nouveau. Et pourquoi, me demandais-je, la perspective de passer encore une nuit et une journée ici me paraissait-elle soudain deux fois plus sinistre ? Des coups discrets furent frappés à la porte. Je sursautai sur ma banquette et la compresse tomba par terre. « Qui est là ? » ?»« Peter Blake. » Il n'y avait aucune raison au monde pour que mon cœur se mette à battre. Ainsi, je me relevai pour ouvrir. Il avait passé une chemise. Dans l'ombre du porche, il avait une allure des plus banales. « J'ai vu votre ami s'en aller. Tout va bien ?»« Bien sûr. Pourquoi ça n'irait pas ?» Je brandis la compresse. « Vous voyez, j'ai suivi vos instructions. Geoffrey est allé en village chercher un meilleur médicament. Mais il ne tardera pas à revenir. » Entendit-il l'avertissement ? « Non. » Les rides se creusèrent sur son front hâlé tandis qu'il fronçait les sourcils. Mais au lieu de s'en aller, il s'avança d'un pas à l'intérieur. « Écoutez, je suis venu pour... Oh, Dieu seul sait pourquoi je suis venu. Bon, je sais pourquoi. Vous avez toutes les raisons de penser que je suis cinglé, mais je ne crois pas l'être. Il y a quelque chose qui cloche, n'est-ce pas ?» Je tentais de rire. « Qui cloche ? Mais qu'est-ce qui vous le fait penser ?» La façon dont vous avez réagi quand je vous ai interrogé sur cette blessure, pour commencer, et la façon dont vous le regardiez, disons que j'ai déjà vu ça, vous aviez peur de lui. Vraiment ? Je jetai un coup d'œil à ma montre, j'essayais de réfléchir. Je n'avais qu'une idée en tête. Il fallait qu'il s'en aille. Et vous avez toujours peur, dit Peter Blake. Pourquoi ? Il n'est pas là, je l'ai vu partir avec sa voiture. Mais, et s'il revient et qu'il vous trouve ici ? Je n'eus pas besoin de finir ma phrase, je vis les larges traits de son visage s'éclairer. Évidemment, dit-il, d'où le problème sur la plage aussi. Il a remarqué. Vous ne devriez pas rester ici. Laissez-moi vous reconduire chez vous. Et tomber sur Geoffrey en chemin ? C'est ce que je pourrais faire de pire, croyez-moi. Franchement, ce que vous pouvez faire de mieux, c'est vous en aller d'ici avant son retour. Il me regarda longuement, une éternité, puis il tendit la main. Sans doute, je ne vous embêterai plus. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous savez où me trouver. Merci. Je lui serrai la main. Je pensais que je respirerais mieux après son départ, mais je m'aperçus que je n'arrivais pratiquement plus à respirer du tout.
Suivant la longue métamorphose qui m'éloigne de mon passé, j'ai croisé une rose qui ne pouvait pas avancer. Pas qu'elle n'ose pas la chose, mais n'y avait jamais pensé. Depuis toujours, tenant la pose quand les regards l'éclaboussaient. Elle a la couleur de l'amour, bien que je ne l'ai jamais croisée. Bien qu'à la lumière du jour, les fleurs sont toutes belles à crever. Alors j'ai mis la route en pause, à ses côtés me suis posé. Puisque cette rose semblait mon rose d'être seul au jour achevé. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, écoute mes murmures. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, tu peux être sûr que tu ne seras plus jamais seul pour franchir les murs. Il y a de la place sur mon épaule pour une rose et son armure. Suivant la course du soleil avec nos yeux fatigués, on s'est raconté nos merveilles et nos tristesses irriguées. On n'avait pas grand chose à faire alors, s'est allongé. Avec ma rose, j'ai fait la guerre à mon envie de voyager. Mais au matin, la route appelle, alors je lui ai proposé. Si elle osait me faire l'honneur d'avancer à mes côtés. Même si ton armure est trop lourde, bien qu'elle t'ait toujours protégée, sache que la vie est sourde quand elle ne doit pas nous blesser. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, écoute mes murmures. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, tu peux être sûre que tu ne seras plus jamais seule pour franchir les murs. Il y a de la place sur mon épaule pour une rose et son armure. Traversant tous les bruits du monde, avec ma fleur à mes côtés, me nourrissant à chaque seconde de sa douceur et sa beauté. J'ai croisé un ruisseau immonde qui a cru bon de refléter l'image d'un monstre aux plaies profondes, un guerrier triste et abîmé. Comment, ma rose, peux-tu subir pareille offense à ta splendeur? Et comment puis-je réussir à oublier quelle fut l'erreur de t'arracher à ton jardin à cause d'un vide dans mon cœur? Mais elle m'arrête et puis m'embrasse, ma rose rit et moi je pleure. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, écoute mes murmures. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, maintenant je suis sûr que je ne serai plus jamais seul pour franchir les murs. Il y a de la place sur mon épaule pour une rose et son armure. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, que ça peut être dur. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, depuis que ma vie dure. Je n'avais jamais eu personne pour guérir mes blessures. Jusqu'à ce qu'un jour une rose vienne se poser sur mon armure.
Au retour de Geffray, j'étais à plat ventre avec une nouvelle compresse. Il examina ma blessure, y passa quelque chose et entreprit de rassembler notre matériel de pêche, le tout sans dire un mot. Il me tendit de lourdes bottes en caoutchouc, deux paires de chaussettes, un épais sweater de laine. J'ai besoin de tout ça. S'il doit faire aussi froid, c'est peut-être pas la peine que j'y aille. Il ne fera pas aussi froid. Je n'ajoutai rien. Au moment où nous franchissions le seuil, Geffray me prit le menton et me sourit. Nous n'avions pas besoin de tout le week-end, n'est-ce pas? Il n'y avait rien de cassé entre nous, n'est-ce pas? Non, rien. Les pauvres crétins comme Peter Blake me font pitié. Allez, viens. Le soleil venait de passer derrière les arbres quand nous rejoignîmes le canot. Je vis du coin de l'œil une lampe s'allumer dans la cabane de Peter Blake. Nous partîmes à la rame, dans la même direction que Geffray quelques heures auparavant, et je me demandais bêtement si Peter était en train de nous observer. Non, pourquoi l'aurait-il fait? Et même si c'était le cas, nous fûmes très vite hors de vue, de l'autre côté de la pointe. Geffray trouva l'endroit qu'il cherchait, il accrocha un verre à mon hameçon et lança la ligne pour moi. Nous restâmes un long moment silencieux. Le jour baissait et il faisait de plus en plus froid. Finalement, cette pénombre me donna du courage. Geffray, tu as raison, nous n'avons pas besoin de prolonger ce week-end. Il n'y avait rien de cassé entre nous. Pourquoi ne pas rentrer dès ce soir? Silence. Je ne bougeais plus, je retenais ma respiration. Ne me dis pas que tu es encore inquiète à cause de cette petite coupure de rien du tout. Non, non, bien sûr que non, mais j'aimerais rentrer chez moi, c'est tout. Je m'efforçais de rire, mon rire sonna faux dans cette semi-obscurité. Autant le dire franchement, je ne peux pas vivre très longtemps sans mon sèche-cheveux. Et tu reconnaîtras qu'un bon bain chaud serait des plus agréables. Délicieux, mais ça peut attendre demain. Je renonçais. Le silence s'éternisa. Nous pourrions peut-être rentrer à la cabane, dis-je au bout d'un moment. J'ai l'impression que le vent se lève. Excellent, ça va faire remonter les poissons. Il fait affreusement froid. Nous allons contourner la pointe et nous mettre à l'abri du vent. Je compris au bruit qu'il rembobinait sa ligne. Je fis de même. Il me prit la canne des mains et la rangea au fond du canot. Il me tendit ma rame. Nous étions environ 800 mètres du bord et je distinguais à peine les arbres. La houle qui venait de se former claquait durement contre la coque d'aluminium et l'on et l'on n'entendait plus le bruit que nous faisions en ramant. Quand nous eûmes contourné la pointe, je constatai que la lampe qui brillait dans la cabane de Peter Black était maintenant éteinte, et je constatai aussi que le vent à cet endroit soufflait encore plus fort. Il traversait la laine épaisse de mon sweater et faisait dangereusement tanguer le canot. Je me retournai. « Jeffrey, rentrons, j'en ai assez, pas toi ?»« Oui, je crois que j'en ai vraiment assez. » Une intonation bizarre dans sa voix. Je n'en étais pas certaine, mais soudain je n'ai plus qu'une envie, partir d'ici. Je me tournai vers l'avant et me mis à ramer furieusement pour nous ramener vers la cabane, la voiture, le départ. D'abord les coups de rame de Jeffrey parurent aussi déterminés que les miens, mais quand nous parvînmes à environ 300 mètres de la plage, je sentis que notre vitesse diminuait. Quand Jeffrey parla à nouveau, ce n'était plus sa voix, mais une claire imitation de la mienne. « Rien de cassé entre nous ?»« Oh Anna, tu me prends vraiment pour un imbécile !» Oh non, pas ici, pas maintenant. Je plongeai ma rame dans l'eau et fonçai vers le bord. Je t'ai vu, je l'ai vu. Je savais qu'il viendrait dès que ma voiture ne serait plus là. Alors je me suis garée un peu plus loin sur le chemin et je suis revenue à pied. Je dois reconnaître que ça ne lui a pas pris beaucoup de temps. C'est quoi le plan? On rentre chez nous, tu me plaques et vous revenez ici tous les deux? Ne panique pas, tu es déjà passé par là. La meilleure chose à faire... Mais quelle était la meilleure chose à faire? Tout ce que j'avais pu dire n'avait jamais entamé la jalousie démentielle de Jeffrey. Toutes les explications étaient restées inutiles. Mais c'était peut-être ça le problème, mon désir d'expliquer. Je songeais à Peter Blake. Vous auriez eu l'air moins bizarre si vous m'aviez dit de m'occuper de mes propres affaires. C'est ce que n'importe qui dans un état normal aurait dit. Et dans ce cas, que dirait une personne dans son état normal ? Je ramenai la rame vers mes genoux, je poussai l'eau d'un mouvement circulaire aussi large que je le pus sans faire basculer le canot. « Si c'est ce que tu penses, Jeffrey, tu es un imbécile. Maintenant il est tard et j'ai froid et je voudrais rentrer. » Je dois admettre que cela parut le calmer un instant, un court instant. « eh bien, écoutez-moi ça, on joue les effrontés maintenant. » Je tiens à te prévenir que ça s'est très mal terminé pour la dernière qui a essayé. Je sais pas de quoi tu parles et je m'en moque. Je rentre maintenant. Je ramais de plus belle. Pas de quoi, Anna? De qui? De Rosemary Blake. Tu veux pas savoir ce qui lui est réellement arrivé? Cette fois, ce fut moi qui m'arrêtai de ramer. Rosemary Blake? Et la femme de Peter Blake? Feu la femme de Peter Blake, devrais-je dire. Et elle serait l'ex-femme de Peter Blake aujourd'hui si elle n'avait pas fait l'idiote. Entre elle et moi, ça avait très bien marché pendant un mois ou deux. Beaucoup mieux que ça n'avait jamais marché entre eux. Il n'a jamais su que c'était moi, bien sûr. En tout cas, il ne pouvait pas en être certain. Puis il s'est passé quelque chose. Elle a dû recevoir un signe de Dieu le Père. Elle était censée le retrouver ici. Elle est arrivée la première parce qu'elle voulait me voir avant et me dire que tout était fini entre nous. Non. L'exclamation m'avait échappé et je ne m'en rendis compte qu'en entendant Jeffrey me répondre « Mais oui, Anna, mais oui. Tu n'aurais rien trouvé à redire si tu avais assisté à notre rencontre, j'en suis certain. J'ai compris qu'il ne fallait pas espérer la faire changer d'avis et j'ai accepté sa décision comme un vrai gentleman. » Je lui ai offert un verre et elle était tellement soulagée de me voir réagir ainsi qu'elle l'a sifflé d'un trait. Je n'ai pas eu trop de peine à la convaincre d'en boire un second. Je l'ai raccompagnée chez elle. Ne t'ai-je pas dit déjà qu'il était facile de se noyer? 30 centimètres d'eau suffisent. Je n'ai eu qu'à l'y pousser et à l'y maintenir. Elle n'était pas en état de se défendre. Il ne me restait plus qu'à mettre le bateau de Blake à l'eau avec le sweater de Rosemary à l'intérieur, à supprimer toutes les traces de mon passage et à rentrer en ville. Le vent, non, sa voix me transperçait. Je ne pouvais plus m'arrêter de trembler. Le nom qui m'avait échappé n'avait été qu'une misérable dénégation. En réalité, presque avant qu'il ne parle, je savais déjà qu'il allait dire la vérité. Et Peter Blake? Peter Blake n'était pas là, Anna. Il ne devait se retrouver que le lendemain. Il n'était pas là, il n'était pas là et il n'est pas là maintenant. Il s'est passé quelque chose d'intéressant tout à l'heure pendant que j'étais au village. Aurais-je oublié de te le dire ? Quelqu'un a appelé le commissariat pour dire que la mère de Blake était au plus mal. Comme il n'y a pas de téléphone ici, on a envoyé une voiture pour le prévenir. Les policiers devraient toujours vérifier que ces sortes d'appels ne sont pas des plaisanteries avant de se mettre en route, n'est-ce pas ? Mais ils ne l'ont pas fait. Je les ai vus arriver devant sa cabane au moment où nous passions derrière la pointe. Il doit maintenant être en route pour Hampstead. C'est là qu'habite sa mère. Voyons, c'est à 3 heures d'ici, il lui faudra bien 1 heure ou 2 pour tirer l'affaire au clair, et encore 3 heures pour revenir, à supposer qu'il revienne. Ainsi, Peter Blake ne serait pas ici avant 8 heures. Mais pourquoi Jeffrey avait-il voulu l'éloigner ? Ce fut soudain comme si quelqu'un avait tourné une clé dans mon esprit et enfoncé l'accélérateur. Jeffrey venait de m'apprendre qu'il avait assassiné Rosemary Blake. Quoi qu'il dise ou qu'il fasse désormais, il fallait qu'il me tue aussi. Nous étions au beau milieu de l'étang, non pas au milieu, mais à 300 mètres, 400 mètres maintenant de la plage, de la cabane, de la voiture. Le chemin le plus rapide pour rentrer chez moi. J'entendais la houle cogner contre le flanc gauche du canot, ce qui signifiait que le vent nous poussait vers la rive opposée. Et qu'y avait-il sur la rive opposée ? Des kilomètres et des kilomètres de forêt obscure et déserte. Et qu'y avait-il dans le canot ? Jeffrey. Je venais de décider de quel côté j'avais le plus de chances de m'en tirer. À la seconde où il leva sa rame, qu'il tenait à deux mains comme une batte de baseball. Mais pour la première fois de mon existence, j'avais un temps d'avance sur lui. Je sautais déjà par-dessus bord quand il acheva son geste. Et si l'extrémité de la rame m'atteignit, elle ne fit qu'effleurer la partie la plus dure de ma personne, mon crâne. Il se produisit alors 2 choses qui auraient pu sceller mon destin, mais paradoxalement me sauvèrent la vie. D'abord, je fis basculer le canot en sautant, et celui-ci s'emplit d'eau si bien que Jeffrey, occupé à se maintenir à flot, ne put me regarder. Ensuite, comme je portais à la demande insistante de Jeffrey plusieurs couches de vêtements et de grosses bottes en caoutchouc, je ne restais pas à la surface. À peine avais-je touché l'eau noire et glaciale que je coulais. Et je coulais. Il me sembla que je mettais une éternité à refaire surface. Mais quand j'y parvins enfin à grand-peine, les vagues et l'obscurité me dérobaient à sa vue. Et c'était pour le moment tout ce que je désirais, échapper à la vue de Jeffrey. J'aspirais l'air à plein poumon, le plus d'air possible, et je plongeais à nouveau en luttant avec l'énergie du désespoir pour m'éloigner du canot. Quand j'émergeais pour la 2e fois, Jeffrey s'était remis à ramer, mais le canot et lui semblaient déjà plus loin. Je replongeai et cette fois je compris que j'avais bien fait. Je m'étais éloigné du canot dans le sens du vent vers la rive opposée et Jeffrey avait pensé logiquement que j'essaierais de rejoindre la terre la plus proche. Il ramait parallèlement à la plage entre moi et la jetée de la cabane. L'étang était vaste. Il était forcé de choisir et il avait fait le mauvais choix. Je m'appliquai à calmer le rythme de ma respiration. Je ne paniquerai pas, je ne pouvais pas me permettre de paniquer. Je remuais bras et jambes, juste assez pour flotter et ne pas me laisser envahir par le froid, attentive à économiser chaque once d'énergie en laissant les vagues et le vent travailler pour moi. J'avais perdu toute conscience du temps et de l'espace et toute conscience tout court lorsque mes pieds raclèrent la vase et que, moitié rampant et moitié trébuchant, je me retrouvai enfin hors de l'eau, sur la rive opposée à la cabane, dans une nuit d'encre.
We were in heaven making love on a Saturday night. We were laughing, it was hot, everything was alright. I am remembering a moment clear as a bell. We were laughing, we were lovers, we were smiling still. Far away, Spanish highway, I steal away.
There are moments in the dream.
J'appris quelque chose à propos de la laine cette nuit-là. Même mouillée, elle vous tient encore chaud. Je ne sais combien de temps je restais ainsi écroulée sur un lit de vase, d'herbes et de roseaux, avant de reprendre haleine et de repartir poussée par le froid. Quand je parvins enfin à me relever, je regardais autour de moi. Derrière, ce n'était qu'un enchevêtrement de végétation où le regard ne pénétrait pas. Je n'eus pas à scruter longtemps pour comprendre que si je m'enfonçais, je disparaîtrais à jamais. Jeffrey avait parlé de 1000 hectares de forêts sauvages inhabitées. Je pouvais renoncer à tout espoir d'y rencontrer une maison ou une voiture. Je n'ai aucun sens de l'orientation, en plein jour et en terrain connu. De nuit et dans une forêt inconnue, j'étais condamnée à tourner en rond et à mourir de froid et d'épuisement. Il n'y avait qu'une chose à faire, contourner l'étang en m'éloignant le moins possible du bord, en direction de la route qui passait quelque part à l'est de la cabane de Jeffrey. Mais qu'arriverait-il si je manquais cette route et me retrouvais à proximité de la cabane ? Et même si je trouvais cette route sans tomber sur Jeffrey, que ferais-je ensuite ? À quel moment avions-nous bifurqué pour rejoindre la cabane ? Et de quel côté se trouvait le village ? Pour un peu, je me serais mise à rire tout haut. Je ne croyais donc capable d'aller jusqu'à ce village seul, à pied. Je ne sais combien de temps je restais là, grelottée, avant d'apercevoir de la lumière. Ce ne fut pas mon cerveau cette fois qui me fit bondir sur mes pieds et foncer le long de la berge à travers les roseaux, mais dans ce mouvement, ces cellules anesthésiées ne tardèrent pas à se réanimer. Peter Blake était là. Mais bien sûr, il n'avait pas eu besoin d'aller jusqu'à Hampstead pour prendre des nouvelles de sa mère. Il lui suffisait de se rendre à Fernham, à 15 kilomètres de là, et de téléphoner. Et comprenant la ruse dont il avait été victime, il était revenu. Il était revenu parce qu'il avait vu la blessure de mon dos et ma peur et qu'il connaissait Jeffrey. Peter Blake était là, dans sa cabane. Et dès que je l'aurais rejoint, j'y serais aussi bien que chez moi. Je ne sais combien de temps il me fallut pour me frayer un chemin en luttant des pieds et des poings autour de cet étang. Le sweater de laine s'accrochait à chaque branche, les ronces m'égratignaient la figure. Je me coupais aux mains en m'agrippant aux roseaux pour avancer à travers les zones marécageuses. Le jean épais me protégeait les jambes, mais comme il faisait froid, il était froid et alourdi par l'eau, il me ralentissait. Les grosses bottes de Jeffrey gisaient quelque part au fond de l'étang et je n'avais pas franchi la moitié de la distance que mes chaussettes étaient en lambeaux. Je continuais pourtant. Quand j'atteignis le sable doux de la plage, des larmes de soulagement me vinrent aux yeux et quand je posai le pied sur la première marche de la cabane, je me mis à pleurer pour de bon. Mais je ne m'en souciais pas. L'heure n'était pas à l'amour-propre, ni à la peur. Les larmes ruisselant sur mes joues lacérées, j'ouvris à la volée la porte de la cabane et m'avançai dans la lumière de la lanterne. Et sous les yeux de Jeffrey. Ses vêtements étaient trempés, mais il avait ranimé le feu dans le poêle de Peter Blake, rallumé la lanterne de Peter Blake et s'était affalé dans le fauteuil de Peter Blake en chaussettes, les jambes allongées face au feu, telle une araignée attendant sa mouche. « Salut Anna, dit-il. Tu as l'air surprise. »« Pourquoi ? Je ne suis pas surpris, moi. Même si tu as mis si longtemps à arriver que j'ai pensé que tu étais peut-être morte, finalement. »« En fait, je savais que si tu n'étais pas morte, tu te précipiterais vers lui. »« Il suffisait de voir comment vous vous faisiez de l'œil sur la plage aujourd'hui. »« Je devrais peut-être dire, pour être tout à fait juste, comme vous essayez de ne pas vous faire de l'œil. » C'était tout compte fait un spectacle des plus pitoyables. Il se leva en repoussant son fauteuil. « Allons, allons, Anna, ne pleure pas. Tu ne peux pas prétendre que je n'ai pas été loyale avec toi. Je t'ai bien dit qu'il n'était pas là, n'est-ce pas ? Viens ici, à la lumière. Mais dans quel état tu es ? Mais que t'est-il arrivé ? » Il me saisit par le bras, m'attira vers lui. Je n'aurais pas pu bouger si j'avais essayé. J'étais sans force. J'aurais dû m'en douter. N'avais-je donc rien appris ? Me précipiter vers Peter Blake pour qu'il me sauve ? Mais il n'y avait personne pour me sauver. Il n'y avait que Jeffrey et moi. En me forçant à pivoter devant la lanterne, il sentit probablement à quelle impuissance j'étais réduite. Il se mit à rire doucement en me repoussant en arrière. Je tendis la main pour ne pas perdre l'équilibre et heurter la lanterne. Elle oscilla en faisant bouger les ombres dans la pièce et sur le visage de Geoffrey qui parut s'animer sous mes yeux. Geoffrey et moi. Mes doigts se refermèrent sur la lanterne. Comme il me tirait en avant, je la soulevai et la lui fracassai sur les yeux. Geoffrey poussa un hurlement et me lâcha, en portant la main à ses yeux. Je tombai par terre. Des flammes coururent à travers la pièce sur la traînée d'huile qui s'était répandue sur le sol et je roulai sur moi-même pour leur échapper, renversant au passage une boîte métallique. La boîte s'ouvrit en tombant du matériel de pêche. Geoffrey plaqua un pan de sa chemise sur son visage, me vit, vint sur moi. Je saisis vivement un couteau dans la boîte et Geoffrey se mit à rire. « Franchement, Anna, que comptes-tu faire avec ça ?» Je sais pas franchement ce que j'aurais fait si Peter Blake n'avait choisi cet instant pour arriver comme un boulet de canon par la porte de la cabane qui se referma avec fracas derrière lui. Geoffrey bondit, mais pas avant que j'aie vu son regard à la seconde où il se jetait sur Peter. Peter était plus grand et plus fort, j'en étais certaine, mais Geoffrey était fou. Je m'approchai des deux hommes qui se colletaient, aussi près que possible, et plantai le couteau. Le corps de Geoffrey se raidit, puis s'affaissa. Je vis l'étonnement se peindre sur les traits de Peter. Un coup de couteau dans le dos, dis-je d'une voix calme, et je tombai assise par terre, durement. Nous laissâmes Geoffrey à l'endroit où il était tombé. Je crois que j'avais l'air plus mal en point que je ne l'étais réellement, et Peter semblait avant tout soucié de m'installer dans sa voiture pour me conduire à l'hôpital. Il s'avéra que Fernand n'en possédait pas, mais qu'il y en avait un à Pittsville, un peu plus loin. À un certain moment, entre l'infirmière et le médecin, Peter s'esquiva. Il donna sans doute quelques coups de téléphone. Les policiers vinrent me trouver à l'hôpital. Il faisait presque jour quand je revis Peter. Il apparut sur le seuil de ma chambre, l'air fatigué. Et je m'étonnais de le voir aussi sale avant de me rappeler qu'il m'avait à moitié porté jusqu'à sa jeep et que j'étais couverte de vase. « Ça va ? » demanda-t-il. « Assez bien. Ils m'ont dit que je pouvais partir. »« Alors laissez-moi vous raccompagner chez vous. »« C'est loin. Je peux appeler quelqu'un. Vous devriez... » Il sourit. Un vrai grand sourire, ou presque. « M'en aller d'ici ? Je ne le pense pas. Pas cette fois. » Voilà cette nouvelle de Mary Higgins Clark qui s'appelle « La nuit s'éveille » et qui a été traduite en français par Pierre Girard.
Eh bien, merci Catherine pour cette nouvelle haletante. Merci chers auditeurs de nous avoir suivis et je vous dis au mois prochain. En espérant pouvoir faire une émission cette fois dans les conditions habituelles. À très bientôt. Il
peine.